Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. C'est l'hôpital le plus ancien de Paris et celui qui a une des plus belles vues, en l'occurrence la cathédrale Notre-Dame. Il est pourtant devenu un des hauts lieux de l'innovation en santé. C'est l'Hôtel Dieu qui a su démontrer qu'une coopération entre l'hôpital public, en l'occurrence l'APHP, les jeunes entreprises, les industriels et les investisseurs en santé était une des clés de l'innovation en France. Le fameux réseau américain d'incubateurs Biolabs a choisi d'y ouvrir son premier site français permettant d'accueillir de nombreuses start-up. Un des exemples de son succès est d'ailleurs la mise sur le marché d'un appareil d'échographie ultra-portable par la start-up Ecopen. L'âme de cette transformation est bien sûr le directeur général adjoint de l'APHP, Nicolas Cassodi, directeur délégué auprès du directeur général de l'APHP. Il est mon invité et il est accompagné de Mehdi Benchoufi, cofondateur de Ecopen, et Johanna Michelin, responsable Europe de Biolabs. Check-up santé, c'est parti. Nicolas Cassodi, bonjour.
Bonjour, très bien.
Johanna Michelin, bonjour.
Bonjour.
Mehdi Benchoufi, bonjour.
Bonjour.
Alors Nicolas, vous êtes donc directeur délégué auprès du directeur général de l'APHP. Vous dirigez aussi l'espace éthique Île-de-France, d'Hôtel Dieu. Vous avez été directeur du cabinet de Frédéric Vidal, qui était ministre de la Recherche et de l'Innovation. Vous connaissez bien évidemment l'APHP, qui est un énorme mammouth. Hein. Ça fait beaucoup de ses premiers centres hospitaliers universitaires d'Europe. Ça fait combien d'hôpitaux, de structures hospitalières?
L'APHP, c'est 38 hôpitaux, c'est 100 000 personnels. C'est surtout une histoire extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une partie de l'histoire de la médecine française, c'est l'histoire de l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est l'histoire de tous ceux qui... les Bichat, les Brousset, les Laennec. Les Laennec, c'est le stéthoscope. Voilà. Et cette histoire-là, c'est la nôtre. On en est très fiers. Et on essaie de la continuer aujourd'hui dans un registre un peu différent, mais intéressant aussi.
Et 12 000 médecins.
Oui, un très grand nombre de médecins, un très grand nombre de soignants. Et puis derrière
dont moi d'ailleurs, hein, parmi les 12 000.
Et on est très heureux. Et on vous remettra votre nouveau badge d'honneur dans un instant. Je trouve que ce qui est intéressant derrière ça, c'est que l'APHP, c'est le prototype du CHU, avec ses grandes missions, le soin, la formation et la recherche. Ce lien soin-recherche, il est crucial, y compris pour tout ce qui va être innovation, création de start-up. Ça explique qu'il y ait tant d'idées, tant de concepts qui germent dans les hôpitaux. Tout l'enjeu derrière, c'est comment on les accompagne, comment on va jusqu'au bout. Mais on est en soi un terreau extraordinaire.
Alors justement, quand on dit qui dit poids lourd, dit souvent inertie. Est-ce que ça n'a pas été évident d'attraper le train du numérique, du digital?
Moi, je crois que d'abord, toute transformation numérique, dans quelques secteurs que ce soit, c'est forcément long, c'est forcément compliqué, parce que ça vient changer très en profondeur les pratiques. Et donc, on l'a vu partout, on le voit dans la santé aujourd'hui, c'est évidemment un défi, et c'est un défi que on essaie de prendre collectivement. Ouais. Après, je pense qu'on a des armes particulières pour y répondre à ce défi. Une de nos chances, c'est que, aujourd'hui, vous l'avez dit, on a un nombre considérable de soignants qui sont passionnés par ces questions, qui sont très souvent liés à des innovateurs de toutes sortes. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est comment cette espèce de bouillonnement naturel qu'on a dans nos 38 hôpitaux, comment on arrive à mieux l'accompagner et comment on arrive à l'amener jusqu'au bout des belles histoires comme celle d'Ecopen, qui sont un très bon exemple de ce qu'on voudrait pouvoir faire.
L'hôpital public en particulier, la PHP, a ouvert quand même un peu sa carapace. Elle a ouvert son monde à d'autres mondes.
Oui,
notamment le privé.
Bien sûr. L'hôpital est d'abord un environnement qui est très ouvert, mais aujourd'hui, on est capable, plus encore qu'hier, de construire des partenariats avec des acteurs qui ne nous ressemblent pas. Et je pense que ce qu'on construit aujourd'hui à l'Hôtel Dieu, c'est un très bon exemple de ça. On est capable de travailler avec un grand incubateur de start-up comme Biolabs. On est capable de construire une relation au long cours avec une start-up issue de la PHP comme Ecopen. On est capable d'animer collectivement cette réflexion-là. Donc c'est un déplacement qui est important, parce que ça veut dire mettre au cœur de notre réflexion, de notre stratégie, cette question de l'innovation ouverte, cette question du partenariat industriel, cette question des start-up. Et en même temps, ça s'inscrit dans une histoire, dans un réseau de relations qui existe. Donc, c'est pas une rupture. C'est une manière de passer une étape, de changer d'échelle. Et ce qui est important aussi, je crois, et c'est ce qui fait, du moins à mon sens, l'intérêt et la valeur du projet autour de l'Hôtel Dieu, c'est que on s'est donné les moyens dans cet espace-là, dans un hôpital qui est pas n'importe quel hôpital, qui est le plus ancien, un des plus beaux, un de ceux dans celui qui vibre depuis l'an 651.
Ouais. Je dis, c'est en face de Notre-Dame, c'est inspirant quand même.
Ah ben c'est plus qu'inspirant. Vous pouvez leur demander à Mehdi, à Johanna. Je pense que ça fait aussi beaucoup pour l'attrait du lieu et pour les équipes des startups, pour les médecins qui sont là. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Mais ce qui a beaucoup de sens aussi, je trouve, c'est que c'est pas simplement le fait que le lieu est beau qui les attire. C'est aussi qu'ils savent qu'ils s'inscrivent dans une histoire. Quand on discute avec Mehdi ou avec son cofondateur Olivier, le fait que l'Hôtel Dieu, ça soit un endroit où un certain nombre de gens soient passés au 19e siècle ou au 20e siècle, qui ont contribué à faire l'histoire des technologies médicales, c'est aussi quelque chose de motivant et d'inspirant. Et donc, on reprend cette histoire et on la prolonge.
Et ça s'appelle At Hôtel Dieu. Johanna Michelin, donc vous avez été la directrice de CRS, du CNRS Innovation, et vous êtes à présent le responsable Europe de Biolabs. C'est un réseau d'incubateurs. C'est bien ça. Dites-nous exactement ce qu'est Biolabs.
Alors Biolabs, c'est le premier réseau mondial d'incubateurs pour des startups en biotechnologie. Nous avons été fondés en 2009 à Boston, au lieu de la dynamique autour des biotechnologies, par Johannes Fruerf, qui était entrepreneur et médecin allemand, et qui a fondé ce concept-là pour répondre à un besoin qui finalement est assez simple et assez commun dans le secteur des startups en biotechnologie. C'est cette nécessité qu'elles ont d'avoir accès à des infrastructures de laboratoires, des équipements extrêmement lourds, pour mener leur développement R&D, alors même qu'elles en sont à un stade de développement relativement précoce. Et donc, ce que nous proposons aujourd'hui sur plus d'une douzaine de sites aux États-Unis et aujourd'hui trois en Europe, c'est un environnement de coworking, de laboratoire, intégralement équipé et accessible à des startups très jeunes sur un mode très flexible. Et le tout au cœur d'écosystèmes qui vont leur permettre d'être entourés d'un certain nombre d'acteurs très divers qui vont les aider dans cette croissance-là. Et c'est le cas, par exemple, effectivement, sur notre tout nouveau site de l'Hôtel Dieu. Alors, tout nouveau, il a déjà un an maintenant.
Ouais. Alors, justement, pourquoi avoir choisi... pourquoi une boîte américaine l'Hôtel choisit Dieu. La France et puis en particulier l'Hôtel Dieu? Est-ce que les Américains ont vu Emily in Paris? Non, c'est le cliché de Notre-Dame, non?
Alors, pas seulement. Effectivement, ouais. ça y participe. Le lieu est beau, comme le disait Nicolas. Non, on est très concrètement... on a choisi la France pour d'abord la qualité de la recherche française parce que ça c'est quelque chose dont on peut être collectivement fier, je crois, une recherche de très très grande qualité, mais aussi une dynamique, un état d'esprit entrepreneurial qui s'est considérablement développé ces dernières années. La recherche française a toujours été de très grande qualité, mais je crois que sur les 10 dernières années on a vu cette dynamique autour du transfert de technologie, de la création de start-up qui s'est beaucoup développée. Et donc aujourd'hui, ça nous semble être un écosystème très favorable pour notre implantation, puisque nous, on répond aux besoins de ces innovateurs-là.
Alors Nicolas, qu'elle se dit, comment s'est transformé physiquement l'Hôtel Dieu pour accueillir cet incubateur? Donc ça a été une...
Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est la transformation.
Très gros travaux.
C'est des gros travaux et c'est une histoire qui se continue. C'est-à-dire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une transformation d'ensemble de l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est un bâtiment extraordinaire. Il y a eu quelques photos qui ont défilé. C'est un bâtiment...
D'où la difficulté, parfois. Ouais, donc.
Le bâtiment actuel est un bâtiment du 19e siècle, qui est dans l'état d'un bâtiment du 19e.
Donc, classé monument historique.
Depuis peu, et avec du coup des enjeux de sécurité incendie, des enjeux d'exploitation. Donc, la volonté de l'assistance publique, ça a été, avec l'accord de tous, c'est d'assurer la pérennité de l'Hôtel Dieu en faisant deux choses. D'une part, en étant capable de rénover un nombre important de surfaces au bénéfice des équipes de soins. Et donc, le message derrière, c'est de dire l'Hôtel Dieu est toujours un hôpital, il est toujours ouvert, il le restera demain. Et puis, d'être capable aussi d'en faire un grand lieu d'innovation en santé. Et ça, c'est une partie qui est portée par un consortium immobilier coordonné par Novaxia et dont Biolabs est partie prenante, et où on a à terme 10 000 m² d'incubateurs. Cette opération-là, cette histoire-là, c'est une histoire sur la décennie, parce qu'un bâtiment comme ça, voilà, ça prend un peu de temps à se transformer. On a voulu, en accord avec Biolabs, être capable d'amorcer vite cette dynamique. Et donc, on a ouvert, il y a maintenant un an, jour pour jour, peu s'en faut, à quelques jours près, mais on a ouvert un premier site un premier site d'incubation Biolabs, avec des travaux de rénovation importants qui ont été faits par Biolabs, avec le soutien de la région Île-de-France sous le contrôle de Johanna. Et on a franchi cette première étape. Et cette histoire va se poursuivre tout au long des années qui viennent. Et c'est l'histoire d'une croissance progressive et d'un hôtel-lieu qui va devenir plus encore demain ce grand lieu d'innovation en santé qu'on appelle de nos voeux.
Alors justement, Johanna, combien de start-up donc, accueillez-vous dans l'incubateur ?
Alors aujourd'hui, après un an d'existence, on accueille déjà 25 start-up au sein de l'hôtel-lieu. Ce sont des start-up qui ont toutes été sélectionnées sur un des critères principaux étant leur potentiel de collaboration avec la PHP. C'est ça qui fait le gros élément d'attractivité de ce site-là. Elles viennent pour collaborer avec la PHP. Il y a déjà des collaborations qui ont été mises en place. Un bon exemple, typiquement sur une biotech, elle va venir dans nos locaux pour avoir accès à des échantillons, à de la donnée, à de l'expertise, à des key opinion leaders, à des médecins qui vont pouvoir les challenger sur les développements qu'elles sont en train de faire et qu'elles soient certaines de s'orienter vers les meilleurs développements possibles qui répondront aux besoins de la communauté médicale et des patients in fine.
Alors justement, qui décide, enfin qui sélectionne ces startups ?
Alors comme tout,
est-ce que c'est la PHP, est-ce que c'est l'Hôtel Dieu, est-ce que c'est...
Vous, tout à l'heure, vous disiez qu'on était en train d'apprendre à travailler de manière ouverte. Mais c'est exactement ça qu'on fait. Et donc, en fait, ces décisions-là, on les prend ensemble. Biolabs, l'assistance publique hôpitaux de Paris, il y a un certain nombre de sponsors pharmaceutiques du site de Biolabs qui sont partie prenante de cette décision. Et donc aujourd'hui, on prend ces décisions à 5. Et en pratique, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit très bien ce que chacun apporte. Le regard d'un grand hôpital, c'est pas le regard d'un grand industriel pharmaceutique, qui n'est pas le regard d'un incubateur spécialisé. Et donc, ces décisions-là, elles sont sans doute plus intelligentes du fait de les prendre ensemble.
Ce qui est important, c'est de créer des communautés. Et c'est ça que l'on essaye de faire chez Biolabs, c'est de regrouper autour de l'entrepreneur et à son service des médecins, des investisseurs, des industriels, des experts. Il n'a aucune obligation d'interagir avec eux, mais c'est vrai que ce sont des interactions qu'on encourage parce qu'elles sont nécessaires pour prendre les bonnes orientations et il faut le faire très tôt, au moment où ils nous rejoignent, où ils sont encore à peine sortis, on va dire, de l'environnement universitaire.
J'imagine que vous êtes très sollicité, non ?
On est très sollicité parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose, très clairement. Il y a un grand champ biotech qui est très mature. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses du côté de la santé numérique. Derrière ça, il y a une idée importante qu'on n'a pas mentionnée et qui, je pense, est une réponse aussi à ce que vous disiez sur cette difficulté de la transition numérique. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de rapprocher un monde de start-up, essentiellement un monde d'ingénieurs, un peu d'acteurs commerciaux, mais c'est d'abord des ingénieurs, de l'univers hospitalier, des médecins, des soignants et des besoins concrets qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à l'assistance publique, mais comme tous les grands hôpitaux, on voit un nombre considérable de start-up qui viennent nous démarcher en nous disant, écoutez, on a un produit absolument génial, fondé généralement sur de la technologie réelle, et regardez, vous allez adorer. Et en pratique, on se rend compte très souvent qu'il y a un immense décalage entre ce qui a pu être imaginé par la start-up, même quand c'est puissant, même quand c'est intelligent, et les besoins quotidiens d'un service de soins, les contraintes que vous connaissez, et puis juste à la fin des fins, qu'est-ce qui fait que pour un médecin ou pour une infirmière, ça change vraiment la donne. Et donc, une des choses qu'on essaie de faire dans cet environnement-là, c'est au fond d'ouvrir nos portes pour aussi simplement... donner accès à nos besoins, permettre à tout le monde de comprendre ce qui peut marcher, ce qui est intéressant, ce qui l'est pas, ce qui va se fracasser sur le mur de la réalité, parce qu'encore une fois, faire tourner un service de soins H24, c'est une tâche un peu particulière. Moi, je venais pas de l'hôpital, je le découvre depuis 4 ans, c'est d'ailleurs merveilleux. J'ai découvert un nombre de choses que j'ignorais totalement, et donc c'est un peu la même chose, il faut donner accès à tout ça. C'est ce qui fait, de notre point de vue aussi, la force des Ecopen, c'est qu'une start-up comme Ecopen, elle a été portée par un médecin à l'origine.
Ouais. Voilà. Ouais. Justement, alors, on va en parler, mais les start-up restent combien de temps d'incubateur en moyenne ?
En moyenne, 2 ans. Le temps finalement d'obtenir les résultats qu'elles souhaitent pour engager une nouvelle levée de fonds et puis ensuite prendre leur envol, prendre leurs propres locaux, construire leur propre laboratoire.
D'accord.
Et ça, c'est ce que l'on leur permet.
Sauf qu'il y en a un qui a tapé l'incruste depuis quelques années.
Ouais. En effet, on complète le dispositif, j'espère favorablement, la biotech avec Biolabs. Nous, on est le volet MedTech.
Oui.
Allez-y.
Je veux dire, vous représentez, donc vous êtes Mehdi Benchoufi, vous êtes médecin, important de préciser, et vous êtes le cofondateur de Ecopen.
Tout à fait.
C'est bien ça. Et comment vous est venue l'idée de...
Je crois que l'histoire illustre assez bien ce que Nicolas vient de raconter. C'est, moi, j'étais médecin à l'hôpital Hôtel Dieu, et puis à la faveur de différents échanges, de différentes idées, on a pu faire mûrir le projet depuis l'idée... à un produit qui est ici, qui est une sonde d'échographie portable connecté à tout type de smartphone et qui a un énorme intérêt médical. Je vais y revenir. On a trouvé, je pense, l'environnement adéquat. On a trouvé des médeins. Ça, je pense que c'est essentiel.
Il y avait un besoin. Calibrer. Il y avait un besoin pour cet appareil.
Il y avait un besoin. L'idée, au fond, c'est de
parce
pouvoir.
Qu'on pourrait dire, il y a les radiologues, il y a des
alors, en effet,
des échos, il y a des cardiologues.
Tout à fait. En fait, le sujet, c'est l'imagerie diagnostique. Alors, pas être trop technique, mais l'idée de rendre plus accessible l'imagerie médicale, donc c'est un énorme enjeu. Il y a une technologie qui y répond bien, c'est l'échographie, parce qu'elle n'est pas invasive, donc elle n'est pas dangereuse pour le corps. Et par ailleurs, elle est miniaturisable. Donc ça, c'est l'idée les pures. Et puis, on se dit, comment le rendre un peu accessible, comment l'intégrer dans la pratique clinique. Et donc, dans la pratique clinique, c'est résoudre les questions de base de la médecine. Et les deux questions, vous le savez bien, sont grave, pas grave, quels sont les organes touchés. Et donc, il y a quelques années, on se dit...
C'est un peu une échographie de premier recours. Donc,
c'est une échographie de tri, tout à fait. Et armé de cette idée-là, on a pu trouver, encore une fois, l'environnement nécessaire, à la fois l'environnement médical, pour calibrer la technologie au plus près des usages, puis l'environnement aussi de la PHP avec lesquels on entretient une relation toute particulière. Et la PHP a peut-être aussi un point important, mais c'est un poids universitaire qui est essentiel. C'est aussi un poids dimensionnant et cette inertie par rapport à une start-up qui est très très agile et aussi une inertie d'une certaine façon un peu stabilisatrice. Donc on a trouvé l'environnement, je crois, idoine pour se développer et j'espère s'inscrire dans l'histoire multiséculaire, comme le rappelait Nicolas, de la médecine.
Alors, pour revenir justement à votre appareil, il a pas mal de fonctionnalités. Il peut servir à différentes professionnels de santé, puisqu'il a, je crois, plusieurs fréquences de...
Tout à fait. Alors, je vais faire les choses très très simples. Oui. Donc, c'est un dispositif, comme vous pouvez le voir, qui tient dans la main. On a pris un certain soin qu'il soit robuste. Les sondes, en général, sont extrêmement fragiles. Lorsqu'elles tombent, elles se cassent. Et en effet, elle est très polyvalente. Elle embarque trois sondes, trois fréquences dans un même dispositif. Et donc, ça veut dire que dans un même temps clinique, on peut imaginer de la superficie à la profondeur.
Donc, par exemple,
du vasculaire pour guider les gestes, du pulmonaire chez un patient qui tousse, de l'abdominal chez un patient qui a mal au ventre. Et donc, cette sonde est très polyvalente et on a voulu construire un peu la Jeep, si j'ose dire, de l'échographie clinique. Elle est pas cher, elle est à moins de 1000 euros.
C'est ce qui vous différencie un petit peu quand même, donc c'est important.
C'est un des éléments qui nous différencie
de vos concurrents.
Très robuste, pas cher, la batterie dure longtemps, donc elle est vraiment robuste à l'usage. Et ce que disait tout à l'heure Nicolas, en effet, la France, et en particulier au travers de l'INEC, a vu naître le stéthoscope, et on dit souvent que cette technologie est le stéthoscope du 21e siècle. Alors c'est une formule un peu racoleuse, mais qui est dans la littérature médicale. Absolument, tout à fait. Et on voit un mouvement de fond aux États-Unis, ça arrive en Europe, où les étudiants sont formés à l'échographie dite clinique, comme vous et moi avons appris à manipuler un stéthoscope. Et cet outil est précisément l'outil qu'on veut glisser dans la poche de chacun des médecins, volontairement.
J'imagine qu'il est relié à soit un ordinateur, soit un smartphone, soit...
Alors, il est connecté à un smartphone de façon non filaire, et par ailleurs, on a toute une infrastructure cloud qui permet d'héberger les données dans toutes les conditions de sécurité idoine et qui permet aux praticiens de revenir sur sa base de données et d'explorer de nouveau les cas médicaux qu'il aura eu l'occasion de rencontrer ce jour d'usage. Voilà.
Nicolas, donc on peut avoir le prix à peu près ?
Moins de 1000 euros.
Moins de 1000 euros. Et il est sur le point d'être commercialisé.
Alors, tout à fait. Alors, c'est un dispositif qui est marqué CE. C'est assez récent, donc sous le nouveau règlement européen. Alors, je le précise parce que ça nous a fait suer et que c'est un règlement qui est nouveau et extrêmement exigeant. Et à notre connaissance, nous sommes les premiers dans cette gamme d'outils à bénéficier du règlement européen. Donc, on va, dans les semaines qui viennent, commercialiser le dispositif, tout à fait.
Nicolas, donc c'est bien de réaliser un produit, un dispositif médical, mais c'est vrai que les start-up, en général, n'ont pas toujours la possibilité d'affronter les problèmes réglementaires, juridiques. Est-ce que vous les aidez d'une certaine façon ?
En tout cas, ça fait partie des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il faut rassembler aujourd'hui comme expertise autour de nous, à l'Hôtel Dieu, pour franchir ces obstacles ? Des conseils en réglementaire, il en faut. C'est peut-être pas nous qui sommes les mieux placés pour les donner. En revanche, ce qu'on peut faire et qu'on a fait avec Ecopen, c'est accompagner la start-up dans la réalisation de ses études cliniques.
Absolument.
On les a fait dans des délais particulièrement remarquables.
Sur les patients.
Ah oui, mais de façon tout à fait improbable.
On dit from bench to bed.
Exactement, sur patient dans les conditions des pures, avec un nombre de patients suffisant, sur plusieurs sites. Et là, on a pu bénéficier de tout le savoir-faire en termes de recherche clinique de la PHP. Et ça, c'est un soutien absolument clé, oui, tout à fait.
Johanna, vous êtes évidemment aux États-Unis, en France, en Europe. Vous n'êtes pas un peu confrontée à une période un petit peu de crise, non ? Le contexte est relativement...
Le contexte est effectivement difficile pour les startups en biotechnologie. Alors après...
L'inflation...
Oui, et puis la disponibilité toute relative aujourd'hui des fonds, notamment.
Bien sûr.
Donc les startups ont du mal à se financer. Pour une entreprise comme Biolabs, j'ai envie de dire, ça justifie encore plus notre modèle. C'est-à-dire que plutôt que de réaliser des investissements lourds, de mal utiliser finalement le peu de fonds qu'elles arrivent à lever, le modèle Biolabs, il est très intéressant parce qu'il permet de mutualiser un grand nombre de ressources entre elles. On loue à la paillasse et au moins le mois, sans aucun engagement, avec accès à un immense parc d'équipements et tout le service associé. Et ça, c'est effectivement ce dont elles ont besoin à ce moment-là, quand les fonds se font rares, où il faut être très parcimonieux dans leur utilisation et peut-être les orienter mieux vers de bons recrutements plutôt que dans le fait d'acheter un autoclave alors que ça n'a aucun sens pratique.
Vous imaginez ouvrir d'autres incubateurs en France ?
On l'espère effectivement. On pense qu'il y a d'autres écosystèmes en France qui sont aussi extrêmement dynamiques ou qui sont en devenir. Et donc on espère
les régions en France qui sont très dynamiques.
Oui, tout à fait, oui, bien sûr. On pense notamment à la région lyonnaise, au sud de la France, à l'est.
Mince, elles ont des concurrents, Nicolas.
Non, un réseau.
Oui, exactement. C'est exactement ça, c'est un réseau. C'est-à-dire que aujourd'hui, de la même manière qu'on essaie d'offrir dans le tissu de la PHP un endroit un peu central où il se passe des choses, où on peut accéder, écouter des gens comme Mehdi, parler avec l'équipe de Johanna, avec la mienne, etc. Quelque part, nous, on a envie d'être partie prenante de ce qui se passe à l'échelle nationale. D'ailleurs, il y a toute une stratégie gouvernementale qui appuie ça. Il y a du soutien qui est significatif. Nous, on a été soutenus par la stratégie d'accélération santé numérique en 2021-2022. Ça a été capital pour nous. La région Île-de-France a fortement soutenu Biolabs et aussi l'Hôtel-Dieu. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on avance collectivement ? Comment on fait vivre ce mouvement ? Comment aussi on donne un peu à voir un certain nombre de sites, d'environnements qui sont préfigurateurs ? C'est important pour nous. Il n'y a pas très longtemps... On a eu la chance comme ça d'être en gros reconnu comme un tiers-lieu préfigurateur de toute la vague des tiers-lieux d'expérimentation tout soutenus par l'État. C'est important et c'est utile pour nous. Et puis, vous l'avez dit, en fait, à la fois, tout ça s'inscrit dans une histoire longue et aussi une histoire courte, parce que depuis quasiment les années 2000, il y a un incubateur à Cochin qui s'appelle Paris Biotech Santé. Il y a des SAD qui ont été créés quelques temps après. Il y a derrière tout ça la loi Allègre qui a permis à des médecins, à des chercheurs de devenir créateurs d'entreprises, donc tout ça se cumule. Et puis, on a la chance d'avoir cet effet démultiplicateur de la taille de la paix, des grandes universités franciliennes. Donc, on veut essayer de contribuer à jouer ce rôle-là. Quand on discute aujourd'hui, ce qui nous arrive un peu avec un certain nombre de nos collègues étrangers aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, on voit bien qu'on est tous en train de travailler autour de ça. Les grands hôpitaux universitaires sont tous un peu en train de regarder comment est-ce qu'on fait, comment on construit ces partenariats. Quels sont les bons objets par lesquels commencer. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la course.
Je voulais ajouter un point sur la dimension européenne aussi de ce dont l'Hôtel-Dieu peut être le point de départ et l'exemple. Donc nous, on bénéficie au travers de l'Hôtel-Dieu, puis de la PHP, de la connectique des CHU en France, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, etc. Donc ça, c'est extraordinairement favorable. Et ce caractère hospitalo-universitaire, c'est à la fois un lieu de science, de soins. C'est aussi un lieu de formation, ça c'est important. Et je crois que c'est aussi les préoccupations de Johanna. Intégrer tout cela à l'échelle européenne, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et il se trouve qu'il y a des CHU, dont je crois que la PHP aussi participe de l'entretien de l'animation du réseau, qui peuvent aussi permettre la diffusion de bonnes pratiques, de trouver des effets d'échelle qui ont un impact à la fois sur le plan médical, mais aussi facilitateur dans la vie d'une entreprise pour les levées de fonds, etc.
Johanna, donc à l'intérieur donc de l'incubateur, est-ce que vous faites en sorte qu'il y ait une certaine collaboration entre les différentes startups, peut-être un partage d'expertise?
Oui, tout à fait. Alors c'est peut-être un peu contre-intuitif parce que quand vous entrez dans un biolab, tout est vitré, c'est-à-dire il y a beaucoup de transparence, les gens partagent les paillasses, les équipements, etc. Alors on nous dit toujours, mais qu'est-ce qui se passe avec ma propriété intellectuelle? C'est souvent une question, ça a jamais été un sujet. Au contraire, en fait,
une émulation,
proximité,
une émulation,
voilà, elle donne lieu à de l'émulation, à de l'entraide. C'est bénéfique pour l'ensemble des projets, in fine.
Et vous êtes l'exemple parfait.
Tout à fait, on est en interaction tout à fait proximale avec nos collègues.
Ce sont les entrepreneurs expérimentés du site.
On est contributeurs du site, maintenant on tâche aussi d'être bénéficiaires de l'ensemble de l'écosystème, et c'est vrai que l'installation de Biolabs est un élément très favorable à l'ensemble.
Nicolas, une conclusion très rapide?
Je crois que
sur Hâte Hôtel Dieu.
Je pense qu'on vient juste de voir ce qu'on essaie de faire. On essaie de créer une communauté, d'avoir de l'ébullition, d'avoir des gens différents qui travaillent entre eux, viennent travailler avec l'hôpital, qui partagent. C'est quelque chose d'ouvert, c'est connecté à l'université, Paris-Cité notamment. Et le but du jeu, c'est de donner de l'énergie, du peps, de permettre de bouger les lignes. Et ça passe d'abord et avant tout par un collectif. Et je suis vraiment ravi que quelque part il soit ici. Mais il soit là pour...
Et d'autres succès en devenir à l'intérieur de l'incubateur?
Ah, je veux dire, un certain nombre de choses intéressantes, oui.
Oui. Donc ça sera l'objet d'une autre invitation.
Voilà.
Nicolas Castaldi, merci. Mehdi Mechoufi, merci. Johanna Michelin, merci beaucoup. Et la porte vous est ouverte de Check-up Santé. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.